une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Comment pouvons-nous avoir la victoire sur la mort? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra vous conduire à une vie nouvelle, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, une fois de plus aujourd'hui, nous allons voir combien la parole de Dieu est vivante. Des prophéties écrites il y a plusieurs centaines d'années nous concernent, nous qui vivons au 21e siècle. Écoutons ensemble ce que le Seigneur va nous enseigner alors qu'il répondra aux questions suivantes. Comment les théologiens libéraux voient-ils les visions du prophète Daniel? Est-ce que les empereurs puissants sont invincibles? L'Amérique du Nord est-elle sur son déclin? Hitler était-il le seul antisémite à avoir tenté d'exterminer les Juifs? Est-ce que les grands dirigeants de ce monde sont aussi fragiles que les autres humains? Quel doit être le but de nos projets? Comment pouvons-nous avoir la victoire sur la mort? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly va répondre à chacune de nos questions en utilisant la Bible, la parole de Dieu, dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur d'avoir inspiré les prophètes, les apôtres, pour mettre en écrit, pour moi, tout ce qui est dans cette belle Bible, tout ce que je peux apprendre de toi. Et merci de me montrer comment je dois marcher. Merci de le faire pour chacun de nos auditeurs, mon Dieu. Touche nos cœurs aujourd'hui par ta parole. Aide-nous à réaliser que ça vient d'en haut, que ça vient de toi, et que tu veux faire de tous ceux qui nous écoutent des enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'Antéchrist deviendra le dictateur du monde et son règne durera 3 ans et demi, soit pendant la deuxième moitié de la Grande Tribulation. Le nom de l'Antéchrist lui convient pour 2 raisons. Premièrement, il s'oppose au Seigneur Jésus. Et deuxièmement, il essaie d'imiter le Seigneur Jésus. Il est à la fois un opposant et un imitateur de Jésus-Christ. Nous avons souligné le fait que dès le début de l'Église, des pères de l'Église enseignaient le prémillénarisme. Cependant, bien qu'ils avaient des points communs avec le prémillénarisme dispensationaliste contemporain, il y avait aussi des différences. Nous vous avons demandé si vous êtes un citoyen du royaume de Christ. Sans devenir citoyen de ce royaume, nous ne pourrons entrer au ciel. De plus, un statut de résident permanent ne suffit pas, en effet. Il faut aimer le Seigneur Jésus et non simplement être membre d'une église ou d'être actif dans une assemblée chrétienne. Nous avons souligné qu'un citoyen du royaume de Christ est différent des autres et il a un seul roi, soit le Seigneur Jésus. De plus, un citoyen du royaume a continuellement accès à Dieu. Il a les ressources et les richesses du royaume à sa disposition et il jouit d'une protection du fait de sa citoyenneté. Aujourd'hui, nous débutons notre étude au premier verset du chapitre 8 du livre du prophète Daniel. Quelle est la fausse présupposition des théologiens libéraux? La vision rapportée par le prophète Daniel dans ce chapitre était prophétique lorsqu'il l'a eue, mais elle ne l'est plus, ayant été accompli depuis. Cette vision prophétique est si clairement accomplie que les théologiens libéraux ou modernistes s'en servent comme argument pour affirmer que le livre de Daniel a été rédigé beaucoup plus tard que l'époque de Daniel. Le théologien libéral ne croit pas aux interventions surnaturelles de Dieu et il ne peut donc pas y avoir de prophétie à caractère surnaturel dans la Bible. Selon eux, les prophéties n'ont donc pas été écrites au temps de Daniel, mais plus tard, après leur soi-disant accomplissement. Il voit dans ce texte un récit fondé sur des événements historiques. Cet argument repose sur la fausse présupposition que Dieu ne peut pas faire de miracles. que seul ce qui est scientifique et observable est vrai. L'argument du théologien libéral est faible, et nous ne nous étendrons pas davantage sur le sujet. Certains érudits se sont demandé si Shakespeare, le célèbre dramaturge britannique, avait vraiment écrit les pièces de théâtre qui portent sa signature. Autrement dit, est-ce que Shakespeare a écrit les pièces de Shakespeare? Mark Twain a répondu, ironiquement, que si Shakespeare n'a pas écrit les œuvres qui lui sont attribuées, alors elles ont été écrites par un autre homme nommé Shakespeare. De la même façon, si Daniel n'a pas écrit le livre de Daniel, il y a environ 600 ans avant Jésus-Christ, il a été écrit par un autre homme qui portait le même nom à la même époque. Dans une vision, Daniel a vu un bélier avec deux cornes de longueur différente et un bouc avec une corne. Cette vision porte notre attention sur le conflit entre le deuxième et le troisième royaume et la lutte entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, entre l'Asie et l'Europe. Cette vision se rapporte au conflit entre l'empire des Mèdes et des Perses et celui d'Alexandre le Grand. La vision comprend aussi une petite corne qui représente Antioche Épiphane, un cruel persécuteur des Juifs qui a été surnommé le Néron de l'histoire juive. Rappelez-vous que la section précédente, Daniel chapitre 2 verset 4 à chapitre 7 verset 28, a été rédigée en araméen, la langue originale de la Syrie et des quatre grands empires. Au chapitre 8, nous revenons à un texte rédigé en hébreu. Chers amis, débutons la lecture du prophète Daniel chapitre 8, verset 1. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Nous sommes à la troisième année du règne de Belshazzar, le dernier roi de Babylone. Daniel a eu la vision du chapitre 7 pendant la première année de son règne. Daniel a eu ses visions alors que l'empire babylonien tirait à sa fin. Verset 2. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province des Lames, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Dans la vision, Daniel se trouve à Suse, la capitale du deuxième empire, soit celui des Mèdes et des Perses. Le fleuve du Laï et le fleuve Kark, qui coulait à proximité de Suse. Cette vision a pour contexte Suse plutôt que Babylone, parce que la vision concerne les deuxième et troisième empires plutôt que l'empire babylonien. Les événements annoncés dans cette vision se sont produits au cours des deux siècles suivants. L'accomplissement de cette vision est si exact que les critiques libéraux assignent une date ultérieure à l'époque de Daniel pour la rédaction de son livre. Ces critiques affirment que le livre a été écrit après ces événements et que le livre est simplement un récit historique. Les critiques libéraux rejettent tous les éléments miraculeux de la Bible, car ils ne cadrent pas avec leur méthode d'interprétation qui n'accepte que ce qui est observable et prouvé par la science. Ils présupposent que Dieu ne fait pas de miracles. Verset 3. Je levai les yeux. Je regardais, voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Le bélier avec deux cornes représente l'empire des Mèdes et des Perses. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. La corne qui représente la nation des Mèdes s'est élevée la première alors que Gobiras, le général Mède, a pris Babylone. Plus tard, ce sont les rois de Perse qui ont eu la prééminence sur les Mèdes et sous leur règne, l'empire a atteint son sommet. Ce bélier, avec une corne plus haute de l'autre, représente l'empire des Mèdes et des Perses alors que les Perses avaient la prééminence. Verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident. Au septentrion et au midi, aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Autrement dit, l'empire s'étendit vers le nord, le sud et l'ouest. pourquoi pas vers l'est? Si les Mèdes et les Perses étaient allés plus loin dans cette direction, ils auraient pénétré en Inde et en Chine. Cependant, ils ont étendu leur empire dans toutes les autres directions. Cet empire était représenté par l'ours au chapitre 7. Ces deux peuples avaient un esprit conquérant. Verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Alors que Daniel était émerveillé par la puissance du bélier, un bouc arriva de l'ouest et il avait une énorme corne. Ce bouc représente la Grèce et la corne représente Alexandre le Grand. Sous Xerxès, la Perse a voulu conquérir l'ouest en commençant par la Grèce. Cependant, le bouc, qui se déplaçait si vite qu'il ne touchait pas le sol, est venu de cette direction. Ce bouc correspond aux quatre ailes du léopard et il illustre la vitesse avec laquelle Alexandre déplaçait ses armées. Lisons les versets 6 et 7. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bélier s'approcha avec haine et colère. Il a frappé le bélier avant de le tuer. Xerxès a été le dernier grand roi de Perse et il a tenté de conquérir la Grèce et l'Europe. Il y est venu avec une armée de 300 000 hommes et leurs familles. Les Grecs ont été assez rusés pour ne pas s'avancer contre l'armée de Xerxès. Ils l'ont laissé s'avancer dans Thermopyle, un passage étroit qui ne pouvait être traversé que par quelques soldats à la fois. Puisque les soldats grecs, surtout les Spartes, étaient mieux entraînés et disciplinés que les soldats mèdes et persans, les Grecs ont décimé la grande armée perse. Ensuite, à Salamine, une tempête a détruit les 300 navires de Xerxès. Lorsque le roi a appris que sa flotte était anéantie, il s'est rendu à la mer et il a frappé les vagues avec sa ceinture. Ceci n'était pas le geste d'un homme intelligent. Maintenant, un jeune homme, un général exceptionnel, entre en scène, soit Alexandre le Grand. Il est décédé alors qu'il n'avait que 32 ou 33 ans. Il était un génie militaire, un des meilleurs. Il pouvait déplacer ses armées plus rapidement que quiconque d'autre l'avait fait auparavant. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Même un empereur puissant est encore fragile, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Qu'est-ce qui a brisé cette corne? Aucune puissance humaine n'était capable de le faire. Lorsque Alexandre le Grand est devenu puissant, le monde entier lui a été soumis. La tradition raconte que lorsqu'Alexandre s'est rendu compte qu'il n'avait plus de territoire à conquérir, il s'est mis à pleurer. Il avait conquis tout le monde connu de son époque. Cependant, alors qu'il était à Babylone, il a attrapé la fièvre au cours de nuits passées à boire et il en est mort. Il n'avait que 32 ou 33 ans. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Les trois empires, Babylone, les Mèdes et les Perses et l'empire d'Alexandre le Grand sont tombés lors de beuveries. Il est probable que l'Amérique du Nord tombera à cause de sa décadence, de l'abus d'alcool et de drogue. C'est beau de protester contre la guerre et de manifester en faveur de la paix. Cependant, l'alcool et la drogue tuent autant de personnes que la guerre présentement en Amérique du Nord. Les accidents et les problèmes de santé causés par les substances intoxicantes coûtent très cher à la société. L'Amérique du Nord est-elle sur son déclin? L'empire d'Alexandre le Grand s'est écroulé parce qu'il a trop bu. Alexandre le Grand a conquis le monde, mais il ne s'est pas conquis lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions importantes ont été prises par des politiciens qui venaient de prendre quelques verres? C'est plus courant que nous le pensons. Je pense sincèrement que désormais, l'Amérique du Nord sera sur le déclin. Elle est déjà engagée dans cette direction. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. Lorsque Alexandre est mort, son empire a été partagé entre ses 4 généraux et ils correspondent aux 4 têtes du léopard au chapitre 7. Cassandre, qui avait épousé la sœur d'Alexandre, a obtenu la Grèce et la Macédoine. Lysimaque a hérité d'une bonne partie de l'Asie mineure dont le territoire correspondait à la Turquie moderne. Séleucos a eu l'Asie et la partie est de l'Empire, sauf l'Égypte. Ptolémée se retrouvait avec l'Égypte et le nord de l'Afrique. Revenons au texte de Daniel, lisons chapitre 8, verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Le plus beau pays est Israël. La petite corne de ce chapitre n'est pas la même que celle du chapitre précédent. Au chapitre 7, la petite corne s'élève du 4e royaume, alors que celle-ci s'élève du 3e, celui d'Alexandre le Grand. La petite corne du chapitre 8 représente un personnage historique et un événement qui est maintenant passé. La petite corne du chapitre 7 n'a pas encore fait son apparition. La petite corne du chapitre 8 s'est élevée dans la Syrie et elle a fait partie de la dynastie des Séleucides. C'était Antioche Épiphane, le fils d'Antioche le Grand. Antioche Épiphane était un autre roi avec des problèmes de santé mentale. Antioche est monté sur le trône de la Syrie en l'an 175 avant Jésus-Christ, et il a attaqué Jérusalem. C'est afin de s'opposer à lui que les Maccabées sont entrés en scène dans le pays de Juda. Antioche était un antisémite et il a tenté d'exterminer les Juifs. Il a aménagé une statue de Jupiter dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Cela a été la première abomination du dévastateur. Il a aussi versé du sang de porc sur les vaisseaux sacrés du temple. Verset 8. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles, et elle les foula. Ce verset est difficile à interpréter. Il semble que Dieu ait permis à Antioche de prendre Jérusalem et le temple. Si certains exploits attribués à Antioche sont vrais, des puissances démoniaques ont été impliquées dans les événements. Certains pensent qu'il y avait une contrepartie à ce combat dans le monde spirituel. D'autres croient que les étoiles étaient des croyants ou des saints de l'époque. Ou encore, l'élite religieuse, les prêtres et les lévites qui s'occupaient du temple. Lisons le verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Antioche vénérait Jupiter, et il a peut-être pensé qu'il était une incarnation de celui-ci. Il s'est donné le titre de Théos Épiphanès, qui signifie « Dieu manifesté ». Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. C'est à cause de la volonté permissive de Dieu que cette corne a réussi dans ses entreprises pendant cette période de temps. Verset 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Le saint est un être intelligent créé par Dieu, mais qui n'est pas un être humain. Il est une créature surnaturelle, un être spirituel, un ange. La profanation du temple est appelée un péché dévastateur. N'oublions jamais notre fragilité. Nous avons vu comment Alexandre le Grand est mort alors qu'il était au sommet de sa gloire et qu'il n'avait que 32 ou 33 ans. Ceci nous rappelle notre fragilité en tant qu'être humain. Jacques, le frère de Jésus, a dit, « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Vos projets ont-ils une portée éternelle? C'est bien de planifier notre vie et d'avoir des projets. Cependant, ont-ils une portée éternelle? Je peux mourir n'importe quand. Un accident est si vite arrivé. Notre scripteur a suivi un cours au cégep. Il y avait une vingtaine d'étudiants dans ce cours. Quelques mois après le cours, il a appris qu'un de ses étudiants, qui avait environ 30 ans, est décédé à la suite d'une infection virale. Ce virus qui courait dans sa famille n'a pas tué les autres membres qui avaient été contaminés, mais lui, il en est mort. Nous ne savons jamais quand nous pouvons passer dans l'au-delà. C'est pourquoi mes projets devraient avoir une portée éternelle. Ils devraient être faits pour la gloire de Dieu et contribuer à l'avancement de son royaume. Jésus-Christ a aussi enseigné cela dans le sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Les seules choses qui ont une valeur éternelle, ce sont celles que nous faisons par amour pour Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Proverbe 23, versets 4 et 5. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Comment pouvons-nous revêtir l'immortalité? C'est en Jésus-Christ que nous obtenons la victoire sur la mort. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est tiré d'1 Corinthiens chapitre 15, les versets 50 à 57. Mes amis, désirez-vous passer l'éternité en présence de Dieu avec un corps incorruptible et glorifié? Notre Sauveur, c'est le Seigneur Jésus. Il est le seul chemin, la seule façon d'être sauvé, de pouvoir nous approcher de Dieu, c'est Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Daniel, chapitre 8, les versets 13 à 27. Bonne lecture.
Oh, merci beaucoup, Réjean. Mes amis, Réjean nous a posé une question bien importante vers la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Il nous a demandé si nos projets avaient une portée éternelle. Et il a dit que tous nos projets devaient être faits pour la gloire de Dieu, qu'ils devraient contribuer à l'avancement de son royaume. Ça m'a rappelé la première fois que j'ai lu le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, à qui Dieu avait donné beaucoup de sagesse. Alors, je venais de lire les proverbes de Salomon pour la première fois, et j'étais rendu au livre de l'Ecclésiaste. Et rendu au chapitre 4, verset 4, il y a quelque chose qui m'a réellement frappé. Voici ce qu'il disait. « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Mes amis, il faut que je vous mette dans le contexte. Je venais de quitter le domaine artistique, où pendant 10 ans, j'avais tout fait pour ma propre gloire et mon propre portefeuille aussi. J'avais pris des cours de chant pour me perfectionner, et je pratiquais la guitare régulièrement, et parfois pendant des heures, pour arriver à épater la galerie par mon habileté. À ma conversion, je me rappelle avoir dit à Dieu, « Désormais, je veux mettre mon talent, mes dons à ton service. Je veux chanter pour ta gloire. Voilà pourquoi j'ai quitté le show business. » Mais quelques mois plus tard, en lisant ce passage de l'Ecclésiaste, j'ai réellement compris ce que c'était de tout faire pour la gloire de Dieu. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'était que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Alors à partir de ce jour-là, si je pratiquais la guitare, c'était dans le but de mieux servir mon Sauveur. Si je faisais des vocalises, c'était pour mieux chanter la gloire de Dieu. C'était pour fortifier ma voix, afin que je puisse chanter sans qu'elle ne se fatigue, pour chanter ses cantiques, tes louanges à Dieu, à ce Dieu merveilleux. Et tout ce que je faisais pour m'améliorer devait désormais être pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, dans le 10e chapitre de son épître aux Corinthiens, au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et toi, mon frère, toi, ma sœur en Jésus-Christ, est-ce que tu t'appliques à tout faire pour la gloire de Dieu? Étant maintenant responsable d'un ministère de louange à l'Église, je veille à ce que tous les membres de l'équipe mettent son talent à profit pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand on a un ministère qu'on exerce devant tout le monde, il est important aussi de s'assurer de l'accomplir dans l'humilité. On doit voir à ce qu'il n'y ait pas de rivalité entre les chanteurs, les chanteuses, les musiciens, les musiciennes. Et quelle joie de pouvoir louer et adorer notre Dieu en étant libéré de notre moi, de notre ego. C'est là qu'on peut entrer dans la présence de Dieu, qu'on peut entendre sa voix qui dit à notre cœur qu'il est content d'être glorifié par son enfant qui l'aime en retour de son amour. Cet amour qu'il a manifesté en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel Dieu merveilleux! Il a donné ce qui était le plus précieux, son Fils bien-aimé, qui est mort sur la croix pour nous, pour payer à cause de nos péchés.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le, rejoins ces gens. Ils seront aidés.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.